France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Mon invité, ce matin, vous le connaissez par ses rôles au cinéma, par ses blagues à la télévision. Mais savez-vous qu'il a commencé comme chanteur à la contrescarpe? Il en reste quelques 45 tours signés Daniel Prévost que je reçois aujourd'hui pour le roman qu'il vient de publier. L'occasion de revenir en chanson sur le parcours d'un comédien et d'un humoriste hors pair, Daniel Prévost. À ce micro dans quelques minutes. En fin d'émission, la chronique de Serge Laïc en hommage à celui qui nous a quittés cette semaine, mais que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien on s'habitue, c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visages en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni ces bras blancs d'une seule nuit, colliers de femmes pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire. Ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien on s'habitue, c'est tout.
Et non, on n'oublie rien, mais on oublie parfois que les chansons ne sont pas seulement l'œuvre des chanteurs, mais aussi l'œuvre de musiciens comme Gérard Joannest, qui nous a quittés cette semaine et qui avait écrit cette chanson comme tant d'autres chefs-d'œuvre interprétés par Jacques Brel, et puis aussi qui avait écrit des chansons pour Juliette Gréco, qui était son épouse. D'ailleurs, nous la saluons si elle nous entend. En tout cas, merci à Gérard Joannest pour tout ce qu'il a fait. Serge Laïc qui reviendra tout à l'heure dans sa chronique, mais je vous invite aussi à aller sur le site de France Musique, à la page de l'émission Étonnez-moi Benoît. Dans l'émission d'aujourd'hui sur Daniel Prévost, vous retrouverez un lien pour pouvoir réécouter l'émission que j'avais eu le plaisir de faire avec Gérard Joannest en 2009.
Thank you.
Je trouve qu'on a rarement aussi bien joué la musique de danse que sous la baguette de Theodor Guschelbauer, ici avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dans un enregistrement de Bella, une polka mazurka de monsieur Émile Waldteufel.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps de retrouver mon invité qui vient de publier un roman plein de mélancolie intitulé « Tu ne sauras jamais combien je t'aime », un livre sur le thème de la disparition qui vient de paraître au Cherche Midi. Un livre mélancolique, je le dis, ce qui n'empêche pas cet invité d'être un des personnages les plus drôles et les plus hauts en couleur du théâtre, du cinéma, de la télévision française. Et puis il a toute une histoire avec la musique qui m'a donné une bonne raison de l'inviter. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Daniel Prévost.
Quand elle enlève ses lunettes et qu'elle se met sous la douche, mon Dieu, j'ai le cœur en fête lorsque je la vois qui louche. Elle ouvre le robinet, d'eau froide sans le faire exprès. Elle dit c'est encore la grève et moi je me mords les lèvres. Car elle louche à perdre haleine, mon Hélène. Elle est myope et n'y voit goutte, ma louloute. Moi je veux lui être utile, je lui tends la savonnette. Croyons saisir ses lunettes, elle s'en met plein les pupilles. Elle me regarde de travers en me disant d'un ton sévère: tu vois, tout me le confirme, tu te moques d'une infirme. Car elle louche à perdre haleine, mon Hélène. Elle est myope et n'y voit goutte, ma louloute. Je l'aime mon Hélène, même si parfois il arrive à un repas de famille qui traîne qu'elle prenne la main d'un convive. Elle ne sait sûrement pas que c'est la même à chaque fois. C'est le de mon petit cousin, celui qui est opticien. Car elle louche à perdre haleine, mon Hélène. Elle est myope et n'y voit goutte, ma louloute. Mais elle fait bien ma louloute, la choucroute.
Bonjour Daniel Prévost.
Bonjour.
On en a des choses dans la discothèque de Radio France.
Ah oui, hein. C'est précieux, c'est des trésors.
Votre deuxième 45 tours du temps où vous étiez aussi chanteur, en 1966. Oui. Vous vous rappelez l'enregistrement, j'imagine, de
tout
cette
à fait.
Chanson.
Oui, je me rappelle bien. D'abord, la musique est de Claude Cagnasso et Roger Riffard également, qui était un poète qui a fait des très très jolies chansons. Et Yvan Julien qui a fait aussi, je crois, l'orchestration.
Voilà, c'est ça. Il a marqué en tout cas orchestre. Direction Yvan Julien,
oui,
voilà, voilà,
oui,
voilà,
oui.
Chez Decca, oui. En 66. Vous pensiez que vous seriez surtout chanteur à l'époque?
Non, je tentais tout pour me faire remarquer. Si
oui,
c'est voilà, ça. C'était ça, surtout. Alors, où je faisais des bêtises, des blagues, où, ben, je disais des choses toujours très amusantes, et en même temps, ben, mon Dieu, comme j'avais une jolie voix,
ouais.
Ben, j'essayais de chanter, et j'avais un groupe de copains comme Claude Cagnasso et Roger Riffard, et ben, on se mettait ensemble, pour exister au point de vue art, si vous
mais
voulez.
Le faire dans les cabarets, c'était une chose, mais de là faire un disque chez Decca, fallait quand même avoir été un peu
ben
remarqué.
Non, je crois pas, je crois qu'il fallait, si vous voulez, ça se faisait beaucoup, hein. Les jeunes gens essayaient tous d'enregistrer absolument tout ce qui leur passait par la tête, et c'était très difficile, parce qu'il y avait une espèce de comité d'écoute, je sais pas,
ouais.
Quoi, et puis en même temps, on faisait ça s'appelait des souples, on fait un souple.
Ah
ça,
oui, c'est vrai.
Ça,
oui,
vous
oui.
Savez, le souple, c'était un essai. Alors, on enregistrait les chansons qu'on souhaitait enregistrer. Et puis, après, le souple était écouté par les grands chefs. Voilà, ça se passait de cette manière.
Voilà, et ça, c'est votre deuxième 45 tours édité. Il y en a eu un premier avant. Et on y reviendra tout à l'heure à cette période contre-escarpe. Mais merci d'être avec nous. Et merci d'être avec nous pour un livre, alors qu'il est dans un registre très différent de ce qu'on vient d'entendre. Hein. Un livre plein de mélancolie, un livre très poétique, un livre où vous parlez de l'impossibilité quasiment de se remettre de la disparition d'un amour perdu et en même temps de la tentative quand même de renouer avec la vie. C'est l'histoire de votre héros dans « Tu ne sauras jamais combien je t'aime » avec une forme très libre qui passe voilà, des souvenirs du personnage, de la personne qu'il rencontre, des relations avec son fils, des souvenirs d'enfance. La forme, elle vous est venue au fil de la plume ou vous l'aviez en tête avant de commencer? Parce que c'est très fluide, on se laisse porter d'une histoire
oui.
à l'autre.
Ben, oui, en fait, j'écris directement et... En ce qui concerne ce livre, chaque matin, je me dis, tiens, je vais écrire comme ça, de cette
ouais.
manière.
Ah oui.
Et c'était la spontanéité, si vous voulez. C'est jamais très, très réfléchi. Et là, je me laisse porter par l'imagination débordante. mais je ne sais jamais, le matin, comment ça va se passer. Je vais dire quoi ce jour-là. Et pourtant, je sais que ça sera raccroché par le passé, par l'avant-hier ou hier. Voilà.
En tout cas, c'est un beau livre, très fluide. Et moi, pour moi, c'est un compliment parce que c'est difficile d'écrire simple. Et bon, vous avez marqué roman. Le personnage s'appelle Daniel. C'est une histoire qui ressemble beaucoup à la vôtre.
Oui, puis de toute façon, ça... Vous savez, c'est toujours pareil, hein. On change, on essaye de mettre des distances entre les personnages. Ce fameux double littéraire, ça, ouais, il existe, ouais, bien, ouais, sûr, ouais. Mais bon, certaines personnes n'est dupe. Puis ça n'a aucun intérêt, d'ailleurs.
C'est, ouais, ça.
C'est donc tout. On écrit telle chose. Maintenant, si tu te reconnais, bah, tu te reconnais. Tu te reconnais pas, tu te reconnais pas. C'est bien, t'as gagné ton pari. Mais moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se raconte et ce qui se conclut.
Alors, on va revenir à ce livre, bien sûr, plus en détail, mais je propose qu'on remonte un petit peu dans le temps. Et d'ailleurs, en partant du livre, parce que ce livre est plein de souvenirs d'enfance, qui sont un peu vos souvenirs, vu que j'en ai retrouvé dans d'autres de vos livres. Par exemple, il y a des histoires de guitare qui sont, à mon avis, assez importantes dans la vie de Daniel Prévost. La danse du meunier de Manuel de Falla par Narciso Yepes à la guitare. Un guitariste que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre, Daniel Prévost. Et oui, cette danse du meunier, je l'ai retrouvée également dans vos lettres d'adieu où vous évoquez votre amour de la guitare. Et...
Parce que je t'ai suivi et j'ai beaucoup vu, écouté les guitaristes de mon époque, c'est-à-dire, voilà, la
Goya,
ma jeunesse,
Goya,
Alexandre Goya, Ida Presti, tous ces gens-là. Singe de la Massa, qui était un grand guitariste argentin, je crois, également. Et puis, Segovia, bien entendu. J'ai vu tous ces gens-là. Je les ai vus soit à la salle Gavo, soit à la salle Pleyel. Ouais. C'est une époque bénie pour moi musicalement, parce que j'étais profondément attaché à cette musique, à cet instrument qu'on appelle la guitare. Et j'ai eu un professeur d'espagnol extraordinaire qui s'appelait Monsieur Gasso, et, oui, qui, je lui ai dit, écoutez, vous savez, moi j'aime beaucoup parce que je fréquentais beaucoup les Espagnols, donc forcément... Oui.
L'Espagne est omniprésente dans votre livre.
Tout à fait, hein, voilà. Oui. Et je lui ai dit, écoutez, moi, j'essaye de jouer de la guitare parce que comme je n'avais pas d'argent pour suivre des cours, c'était un copain qui me donnait quelques rudiments, et il me dit, bah, venez chez moi et puis je vais vous jouer des morceaux parce que je suis, en dehors d'être un professeur d'espagnol, je suis également guitariste. Et je suis allé chez lui, et là c'est encore plus grave parce qu'il avait, si vous voulez, dans le décor, c'est un monsieur qui habitait rue de Rivoli, dans une petite chambre avec sa femme qui avait un bébé. Ils étaient, vous savez, une toute petite chambre de bonne quasiment. Ce monsieur était un réfugié. Bien. Et il s'est mis à jouer des morceaux de musique espagnole et j'étais fasciné parce que il était tout près de moi et j'ai jamais oublié ça. Il m'a joué les choses et il était copain avec Narciso Yepes.
Justement, voilà. Et vous citez d'ailleurs dans votre livre donc cette danse du Meunier et d'autres morceaux. J'ai noté dans ce roman, vous indiquez souvent les noms et les références précises des morceaux de musique en bas de page, comme si la musique faisait presque partie de la construction du livre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai eu une période bercée par la musicalité de cette musique espagnole. Voyez, mais dans les musiques espagnoles, il y a des trésors, il y a des trésors qu'on découvre, qu'on redécouvre si vous attendez 5 ans, 6 ans. Ça revient comme ça, ça vous revient. Il faut absolument que je réécoute ça.
Voilà. Les musiques de votre enfance, chez votre mère et votre beau-père, c'était quoi ce qu'on passait? C'était la radio, quelques disques?
Oui, c'était la radio. Oui, mais pas des disques, c'était de la radio.
Les succès de l'époque.
Quoi. Oui, c'est ça, rien de plus. C'était anodin, c'était normal, c'était leur culture. Vous voyez, on ne peut pas. Ça, il n'y a pas d'once de mépris dans ce que je vous dis, mais simplement, moi, je me suis un petit peu dirigé vers la musique espagnole. À cause et grâce aux réfugiés espagnols.
Et donc, quand vous avez commencé à vouloir devenir artiste et à, justement, comme vous nous disiez avant, à essayer un peu tout pour vous faire connaître, vous êtes allé à Paris, à la Contrescarpe, qui était vraiment le quartier des cabarets. Mais vous n'avez jamais été un chanteur à guitare, il y en avait plein à l'époque.
Oui, il y en avait.
Puisque mais vous aviez une guitare, vous aimiez la guitare.
Oui, c'est tout à fait juste, mais j'avais fait une incursion au conservatoire de Mireille, vous savez, la vieille dame qui chanteuse et qui était formidable et qui avait fait des très, très jolies chansons, des très, très jolis textes. Et j'étais allé, j'avais chanté comme ça. J'avais, par exemple, 3-4 accords uniquement. Et Do majeur, La mineur, Ré mineur, Sol, septième, Do. Et je chantais des bêtises, mais c'était volontaire, ça.
Et donc, voilà. Mais vous êtes allé chanter dans les cabarets sans guitare plus tard.
Vous savez, quand je suis allé au Cheval d'Or.
Au Cheval d'Or en particulier, à la Contrescarpe.
J'ai été pris là et j'y suis resté 3 ans d'ailleurs. Et je chantais tous les soirs des chansons comme ça, que je veux bien nommer ineptie par modestie, mais c'est très très drôle, c'est très 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 très
drôle. Mais vous étiez très bon, moi je connais des témoins.
Oui, oui.
Hein ?
Oui, oui.
Vous étiez bien ?
Oui, oui, c'était... Ah oui, mais franchement, hein. Mais si vous voulez, là j'étais accompagné par un pianiste qui, lui, était dévolu à ce cabaret.
À ce lieu, oui, bien sûr. Ouais.
Et il m'accompagnait, donc je répétais avec lui les chansons. De temps en temps, il était remplacé, donc je revenais. Voilà, ça se passait de cette manière.
Il y avait Bobby Lapointe qui était pas loin.
Bobby était avec moi, voilà. Il y avait Anne Sylvestre, il y avait plein de gens comme ça, très... Rissé-Barrier, bien entendu.
L'excellent Rissé-Barrier.
Formidable. Ouais. Et il y avait des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes femmes, qui venaient passer des auditions devant le patron qui s'appelait Monsieur Tcherniak, qui était un type très très gentil. Il écoutait parce qu'il adorait la chanson.
Voilà, c'est ça, c'est beau. Alors, on va retrouver justement un des grands chanteurs de ces années-là, que vous adorez, je crois, c'est Léo Ferré, dans « Merde à Vauban ».
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne, merde à Vauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi, je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, ici. Les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne viennent celles que j'aimais tant pour elles. J'ai manqué la belle, merde à Vauban. Bagnard, la belle, elle est là-haut dans le ciel gris. Elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, le temps qui tend s'allonge dans l'île de Ré avec ses poules, le temps te ronge dans l'île de Ré. Dans ses yeux, où est sa bouche avec le vent? On dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant moi. Je chanterai d'en dessous mes planches, merde à Vauban.
Et vous voyez, dans cette chanson, La merde à Vauban, j'ai toujours retenu deux vers. Deux vers que je trouve absolument admirables, c'est « À la ville m'attend ma mignonne ». Mais dans 20 ans, pour elle, je ne serai plus personne. Ouais. Et vous voyez, si on dit le texte, on trouve que c'est, quelque part, c'est absolument déchirant. Je ne parle pas de l'individu, de la personne, du bagnard. Je dis simplement, vous voyez comment des gens ont pu écrire des si belles choses.
Vous précisiez, hors antenne, Daniel Préau, c'est Pierre Segers hein, qui a écrit les paroles de cette chanson de Léo Ferré.
Hein. Qui a fait après toute cette maison
d'édition et de poésie et de chansons d'ailleurs, on trouvait les deux hein, dans les petits livres carrés.
Oui, exactement.
Voilà. Et là, c'est donc Ferré, évidemment, au début de ces années 60, où vous avez fait vos débuts, Daniel Préau. Voilà, on a évoqué les chansons, le cheval d'or, etc. Mais il y a quelqu'un qui a joué un rôle très important, évidemment, c'est Jean-Yann, avec notamment vos débuts au théâtre dans Un certain Monsieur Blot de Robert Rocca, le chansonnier, en 1961.
Exactement. Et
vous l'aviez connu comment, Jean-Yann, d'abord?
Jean-Yann, je l'ai connu... il passait dans des galas de soutien pour les anars, les anarchistes espagnols.
Ah oui?
Et les anarchistes français aussi, mais les anarchistes espagnols, c'était en 1957-58. Et je l'ai vu là, au Moulin de la Galette, où ça se passait. Et il jouait avec son guide chant, ce qu'il appelait, vous voyez, son guide chant, des chansons drôlatiques comme Ave Maria, avec Maria, on a dansé la Java, vous voyez, toutes choses-là. Et il avait un succès monumental tout de suite. Je l'ai connu là, et c'est là aussi où j'ai rencontré, en coulisses, je parle de ça, en coulisses, Brassens et lui, ils étaient tous les deux, chacun passait, allait passer. Parce que moi aussi, j'avais passé dans un gala comme ça de soutien. Et j'ai dû chanter une chanson aussi qui ne m'a pas laissé de souvenir. Voilà, mais c'est comme ça que je l'ai connu. Puis plus tard, enfin, je lui ai dit bonjour, mais après, quand j'ai eu le prix
de la rue Blanche,
Et là, mon professeur, et en même temps, il était directeur du théâtre Gramont à l'époque, m'a dit, Prévost, viens me voir en juillet, et puis j'ai quelque chose pour toi. Et quelques mètres plus bas, il y a un autre monsieur, un autre homme qui m'a dit, Prévost, venez me voir en septembre, j'ai quelque chose pour vous. Et là, il s'est passé la chose tout à fait extraordinaire que je trouve mystérieuse, c'est que comme j'avais besoin d'argent, j'étais un jeune homme, je vivais encore chez mes parents, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ce monsieur, René Dupuis, fin juin. Et j'y suis allé, et c'est là où j'ai rencontré Michel Serrault et Jean-Yann, qui furent mes deux balises, mes chemins.
Voilà, et donc vous avez eu ce rôle dans Un certain Monsieur
Blot. Un certain Monsieur Blot, j'avais 10 lignes à dire. Mais j'étais tellement heureux de voir ces personnes que j'avais déjà vues. Hein. J'étais subjugué par leur personnalité. Quoi, voilà.
On a d'ailleurs aussi le disque de la pièce qui a été enregistré à l'époque. Vous êtes dedans, sur la pochette.
Oui,
on voit le nom du jeune Daniel Préau.
Oui.
Et Yann est devenu un ami. Alors,
oui, c'est une personne qui est restée, si vous voulez, je dirais,
un modèle,
collée à ma vie. Un modèle aussi. Et puis, il y avait quelque chose de tout à fait exceptionnel chez lui. C'est qu'il me regardait, si vous voulez, comme un être humain.
Ah oui.
C'est pas comme une personne curieuse comme ça. Je le faisais hurler de rire. Il me faisait hurler de rire en même temps. Mais il y avait des rapports, je dirais, tout à fait équilibré. C'était pas ouais. Bon, c'était comme ça, voilà. Tiens, fais-moi ça, toi. Et quand on a fait de la radio après avec l'autre copain Maurice Vambi qui est décédé il y a 3 ans, c'était la même chose. Il y avait une espèce de une égalité totale. Pour moi, ça a été la personne la plus, je dis le mot en conséquence, ça a été la personne la plus bienveillante envers moi. Il y en a eu d'autres, bien sûr. D'autres personnes ont dit « Oh, Daniel Prévost, il est formidable, il faut que je le prenne. » Vous voulez...
Et pour ce qui est de l'humour, il vous a poussé dans le mauvais esprit ou vous l'aviez spontanément ?
Non, j'avais spontanément. J'ai un très mauvais esprit. Donc...
c'est bien ce qui me semblait, mais c'est jamais. Hein, on peut l'apprendre aussi. Ouais.
Non, mais il m'a poussé là-dedans, bien sûr. Il m'aidait sans arrêt, vous voyez. Enfin... comme ça. Et quand il a fait son premier film, tout de suite, il a pensé à Daniel. Et puis après, on a fait les autres films quand j'étais disponible.
Alors, dans les copains de l'époque, j'ai noté aussi jeune Serge Lama, à peu près en même temps que vous. Hein.
Alors ça, c'est d'autres choses. C'est parce que, vous savez, à cette époque-là, le journal L'Humanité, qui était dirigé par Val Descrochet, et il y avait Louis Aragon qui faisait, je crois, les lettres françaises, mais c'est autre chose. Ouais. Mais c'est pareil, quoi.
Oui.
Et le Parti communiste avait fait un concours, ça s'appelait le concours de la chanson française. Et on avait été sélectionnés. Alors Serge avait été sélectionné, j'avais été sélectionné. Puis un autre copain qui s'appelait Jean-Pierre Auzère, qui est un type qui était, je crois, très, très doué en musique, et qui était suisse. Et donc, on a été sélectionnés. Et le prix de la sélection, c'était qu'on se produise
à la fête,
à la fête de l'humain. Alors ça, je vais vous dire, c'était grand. Parce que j'ai chanté devant 5000 personnes. Serge, il a chanté aussi pareil que moi. Bon. Et puis, en vedette, il y avait Lenny Escudero.
Ah, vous voyez, bien sûr.
On est parti avec Serge Lama, ma femme et moi. On est parti de, je ne sais pas, de la Porte-Saint-Denis, je ne sais pas où ça se trouve maintenant, je ne me rappelle plus.
Jusqu'à la Courneuve.
Oui, c'est ça, jusqu'à la Courneuve. Et c'était un jour où il n'avait plus beaucoup. Et on
oui,
a pataugé dans la boue, voilà. C'était mon souvenir.
Dans les chanteurs de l'époque que vous avez bien connus, il y avait aussi, j'ai retrouvé la chanson grâce à vous, on va en dire un mot après, Gilles Dreux.
Si pleine de joie, chantons tous les deux. Un autre jour, peut-être, on sera s'en vont en fumée. Non, ne t'en fais pas, Alouette. l'alouette, l'été reviendra.
Et là, on est en 1968, vous avez 29 ans, Daniel Prévost, et Gilles Dreux, que vous avez bien connu, je crois, aussi,
oui,
à l'époque.
J'ai connu un petit peu, oui.
Chante cette chanson extraite de la Missa Criolla.
La Missa Criolla, oui. Comment il s'appelle? Aldo...
Ariel Ramirez.
Ariel Ramirez, voilà, c'est ça. Voilà. Et vous savez, en même temps, je pense à ça, parce qu'il y a énormément de groupes, ce sont des Argentins, je crois, qui chantent la Missa Criolla comme ça, et on se lasse pas.
Non,
on
c'est
s'en
très,
lasse
très
pas.
Beau, comme
si vous avez 10 groupes sur Wikipédia ou ce que vous voulez, et ben vous les écoutez, le 1, le 2, le 3, le 4, et on se lasse pas de ça. C'est quelque chose de tout à fait mystérieux aussi, cette musique, vous voyez?
Ouais.
Pour moi, c'est ça, c'est étonnant. Quoi.
Et merci de me l'avoir fait redécouvrir, parce que c'est vraiment très, très, très beau. Alors, on a évoqué vos débuts dans la chanson, vos débuts au théâtre. Alors, ce que je trouve singulier dans votre histoire aussi, Daniel Prévost, c'est que, au fond, c'est à la télévision que vous avez vraiment pu affirmer avec une grande liberté, j'ai l'impression, votre style. Alors, on dit aujourd'hui que la télévision des années 60 était très, très coincée, comme si Canal+ avait tout inventé. Mais en fait, vous, bah, de Jean-Christophe Averty à Jacques Martin, vous avez prouvé un peu le contraire, non?
Ben oui, en même temps, il y avait une émission qui s'appelait Les Raisins Verts.
Ça, c'était Averty, hein?
Avec Jean-Christophe, oui.
Ouais.
Et là, je suis passé la première fois dans Les Raisins Verts pour une chanson que j'avais commise.
Ah oui, c'était pour la chanson à l'origine.
Ah oui, oui, ah oui, oui. Et Jean-Christophe avait fait un montage de tout ça et il était archi doué. Quand...
Ouais. Il y avait une liberté d'invention
aussi. Oui, c'est ça.
Aussi.
Voilà, exactement. Voilà. Et bon, Jean-Christophe, j'ai fait plusieurs choses avec lui.
Vous
aussi.
Êtes bien entendu parce que bon, c'était pas toujours facile, non?
Oh, si, si,
oui,
ça
ah
allait,
oui.
Si, si, oh, si, si. Il criait beaucoup, mais il était plutôt sympathique. Il était très sympathique. Et voilà.
Bon... Vous avez fait aussi Douche écossaise? Avec lui.
Les douches écossaises, c'était avec une dame qui s'appelait Michel Arnaud.
Eh bien sûr.
Michel Arnaud. Et là, oui, j'ai fait cette chose-là. J'ai donc rechanté quelque chose comme ça dans ces émissions. J'ai fait beaucoup de trucs comme ça. Et en même temps, je me souviens d'une tournée dans la périphérie de Paris. C'était Michel Arnaud qui était, je crois, la productrice. Et j'ai chanté des bêtises là-dessus, là, dans cette programmation. Je me rappelle au théâtre de Suresnes, j'ai vu deux garçons qui faisait un numéro, qui n'était pas un numéro parlant, c'était Pierre Richard et Victor Lanoux.
Ah oui.
Qui faisaient semblant de peindre un mur absolument invisible. Voilà, c'est ça ce dont je me souviens.
Parce qu'il y avait au fond un esprit musical à la télévision, et alors peut-être de façon moins délirante qu'Averty, mais Jacques Martin évidemment a incarné ça aussi d'une façon merveilleuse, et ça a été aussi un tournant dans votre vie, Daniel Prévost.
Oui, aussi, et en même temps, avant que moi j'arrive au petit rapporteur,
ouais.
J'ai vu Jean... Yann et Jacques Martin faire des numéros eux aussi.
Oui, c'est
et
ça.
C'était des numéros irrésistibles, je dirais, mais avec beaucoup d'esprit.
Ouais.
Et ils se sont fait virer, bien entendu.
Le petit rapporteur, vous y êtes arrivé comment donc?
Avant d'arriver chez eux, chez Jacques, j'étais à la radio, à Radio RTL, à RTL très exactement, et je suis passé d'RTL chez Martin. Il était à ce moment-là à RTL et puis il est parti pour tenter cette expérience du petit rapporteur. Et je suis allé le voir en septembre. J'ai dit, est-ce que tu veux m'engager parce que j'ai pas de boulot? Alors il m'a dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Alors j'ai dit, on a pris une caméra avec un copain et puis on a fait, je ne me rappelle même plus de quoi. Voilà.
Comment ça se construisait les émissions? Il y avait des réunions? Il y avait des...
Oui, c'est ce, qu'on a, c'est ce que Jacques appelait... Conférence de rédaction, je crois.
Oui.
Ça, il disait, vous voyez, c'était le journal, donc une conférence, et tout le monde était là. Il y avait Piem, il y avait Collaro, il y avait...
Piem qu'on salue, tiens, il m'a fait signe il n'y a pas longtemps.
Très bien, parce que je lui ai téléphoné, parce qu'il m'a adressé très gentiment. J'aime beaucoup Piem, et il a été très aimable avec moi. Et puis Stéphane aussi a été très très gentil avec moi, et voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que Jacques, je ne dis pas qu'il ne m'appréciait pas, parce que j'avais encore rien fait de spécial, mais simplement, il hésitait parce que j'arrivais de la radio. Moi, je ne connaissais absolument rien à la caméra et ces trucs-là. Ouais, ouais. Je connaissais simplement ma folie furieuse et permanente. C'est tout ce que je peux dire. Donc à partir de là, il fallait construire quelque chose. Et j'ai construit, et Martin distribuait des sujets parce qu'on parlait, tout le monde parlait des sujets. Sujet à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour samedi? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Et là, il y a toujours Stéphane Collaro disait, tiens, voilà un sujet pour Daniel.
Ah bon, c'est bien. Alors, voilà.
Donc on est toujours ségrés.
Voilà, vous allez me pardonner, Daniel Prévost, oui, parce que c'est comme quand j'invite. Non, non, pas du tout. Mais je suis toujours un peu gêné quand j'ai un chanteur que je passe ses plus grands tubes qu'il a entendu 100 fois. Et là, on va passer juste une minute de l'interview de Mon Cul.
Nous voici dans la mairie de Mon Cul, dans la salle de délibération du conseil municipal, où Monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir. Et je m'aperçois que vous êtes bien chauffé, puisque voici le fameux poil de Mon Cul.
Dites-moi, la nuit, Mon Cul est bien éclairé ?
Oui. Oui. Très, très bien éclairé.
Parce que je me suis laissé dire que c'était quand même un peu sombre, parfois. Oui ou non ?
Non, 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 non.
Alors, il y a également une spécialité. Il doit y avoir des spécialités dans votre village. Par exemple, Montélimar, c'est du nougat. Et Mon Cul, c'est du poulet. Je respire à plein poumon l'air de Mon Cul, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de l'air pur de Mon Cul.
Ah, ici, c'est très sain et on fait très bonne cure.
Oui.
Très bon pour les poumons.
Dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à Mon Cul ?
Oh, il y en a très peu.
Pas bon ?
Voiture personnelle, taxi, une fois de temps en temps, un autobus.
Oui, ah ben voilà. Oui, mais alors où est-ce qu'on s'arrête ? Parce que j'ai pas vu l'arrêt de Mon Cul.
Elle n'existe pas. Allez.
Un morceau qui vous est cher, Daniel Prévost, Conga Love, de votre ami, donc on l'a vu tout à l'heure, qui a écrit vos premières chansons, Claude Dino, Cagnasso,
oui,
qui nous a quittés l'an dernier.
Oui, c'est ça, qui nous a quittés, et c'était une personne tout à fait exceptionnelle, musicalement, et à la fois humainement, bien sûr. Mais pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est une personne que j'ai connue, j'avais 22 ans, 23 ans. On a fait les premières chansons ensemble. Il m'a accompagné, bien entendu, au Cheval d'Or. Il était très, très attiré par cette musique. Et il y avait un groupe
de cuivre
qui s'appelait Roberto Cetto à l'époque. Uh-huh. C'était des gens très connus. Et, uh-huh, et il a fait, lui, ses premiers pas, son éducation là-dedans. Et en plus, il a été professeur à l'école de jazz, je crois, à Pigalle, et il a été également, il dirigeait un grand orchestre. Et je me souviens aussi que Pierre Bouteiller était fan de Claude, et il essayait de le porter, de le soutenir dans son œuvre.
Alors juste avant, il y avait effectivement l'interview de Mon Cul. Ça vous agace quand on vous en parle tout le temps ?
Non.
Ou... Non, ça va ?
Non, je m'en fous.
Ah bon, très bien.
Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a un moment donné, vous avez totalement raison de dire, est-ce que ça vous agace? Au début, ça vous agace. Ben oui, mais puis à la fin, on n'en sait rien. C'est comme si on marchait sur un tapis, une brosse, ça n'a pas d'importance.
Bon, alors on a évoqué la période télévision. Un mot quand même, après, de tous ces rôles qui se sont succédés au cinéma, même si on est là surtout pour parler de musique. Une chose qui me frappe dans les rôles les plus marquants, peut-être, au début en tout cas, entre le Dîner de cons, Uranus, La vérité si je mens, c'est vous avez, on a l'impression, une espèce de jubilation à jouer des rôles de type pas très sympa souvent.
Oui, ça se peut parce que je suis très antipathique.
Non, c'est vrai.
Non, je sais pas.
Mais c'est simplement la joie de jouer la comédie,
oui,
justement.
C'est, oui, c'est ça. Et puis, vous savez qu'à un moment de ma vie, j'ai pas à choisir. Je ne peux pas choisir. On me propose ça.
Mais on vous a collé cet emploi, peut-être aussi, non?
Oui, on me l'a collé. Mais ça, c'est Jean. C'est Jean qui me l'a collé.
Jean-Yann.
Oui, c'est Jean. Oui. Parce que le premier film que j'ai tourné avec lui, c'était Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Où je faisais celui qu'il appelait dans le scénario le faux cul. J'étais un faux cul. Je faisais le faux cul. Alors, évidemment, je crois que petit à petit, les gens de métier, les metteurs en scène, les réalisateurs, tout ça, qui n'ont pas spécialement grande imagination, faut pas se gourer là-dessus.
Soyons
clairs. Parce que si vous jouez un comptable une fois, vous jouez un comptable une deuxième fois, puis une troisième fois, vous en ferez 10. Tout ça, bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie du métier qui est très 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 petit. C'est rien du tout, mais les gens en font des montagnes et des montagnes. Mais bon, bref, tout ça pour dire quoi ?
Tout ça pour dire que heureusement, finalement, ces dernières années, vous avez eu l'occasion de montrer beaucoup d'autres cordes,
oui,
à votre arc.
C'est vrai, mais vous savez, quand les journalistes disent « Vous avez l'occasion de montrer telle chose qu'on ne connaissait pas de vous », c'est une grosse connerie, bien entendu. Ouais, c'est une grosse connerie.
Oui, ça existait déjà.
Oui, et puis, non seulement ça, mais vous acceptez de jouer ça, c'est une question d'argent.
Ouais.
C'est une question d'argent. Moi, tu vas jouer ça, bon, d'accord, c'est très bien. Et après, on discute économie, mais ça ne me fait pas plus plaisir de jouer un fumier que quoi que ce soit. S'il faut jouer... Sauf que Jean-Yann avait dit, moi, ça m'est égal, moi, je veux bien jouer un voleur ou un assassin d'enfant, moi, je veux bien, ça ne me gêne pas du tout. C'est aussi bien que de jouer... Mais il avait une comparaison, vous voyez, Jean, il faisait des comparaisons, mais c'était parce que c'était de la dérision pure. Et je pense que c'était ça, son vrai truc. Mais le fait de dire on ne connaissait pas son truc, bah oui, on ne connaissait pas. Bah non, mais je fais aussi la pâte à crêpes, tu ne sais pas comment je la fais. Oui, ça ne veut rien dire, tout ça.
Vous avez fait d'ailleurs tant de choses dans tous les domaines, on vient de le voir, Daniel Prévost, que ça m'a amusé de retrouver un autre disque de vous, chanteur, qui s'intitule « La ronde des métiers ».
Ah oui, oh là là.
Ah, dites-nous un mot avant qu'on
l'écoute. Oui, je vais vous dire un mot. C'était l'époque où je faisais un jeu qui s'appelait Anagramme. C'était sur, je crois, c'était sur TF1. Voilà. On m'avait demandé de présenter ce jeu. Donc, je dis d'accord. Et d'une façon un peu bizarre, je me déguisais, je faisais le fou furieux. Je disais, je me mettais une banane dans l'oreille et je regardais le code pénal et je disais à la caméra, je suis en train de feuilleter le code pénal, je vois pas ce qui m'empêche de me mettre une banane dans l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pour moi, c'est important. C'était de l'incongruité, mais qui portait pas préjudice à personne. Et c'était totalement anodin. Et là, dans ce jeu Anagramme, qui a duré quand même 3 mois, dans ce jeu Anagramme, je faisais n'importe quoi, mais j'ai reçu un monceau de lettres d'injures, et ils voulaient tout me faire, c'est-à-dire tout. Et j'avais des sacs de lettres de compliments, vas-y Daniel, quand je recevais chez moi, je virais les lettres d'injures parce que c'était tellement immonde que j'avais pas envie que mes enfants regardent, voilà.
Cet enfant gendre devient forgeron et en chantant chanterelle.
Cet enfant gendre devient forgeron et en chantant chanterelle.
C'est en lisant qu'on devient liseron et en jouant jouvencelle.
C'est en lisant qu'on devient liseron et en jouant jouvencelle.
C'est en bossant qu'on devient bosseron et en maniant manivelle.
C'est en bossant qu'on devient bosseron et en maniant manivelle.
Il n'y a pas 200 métiers, il n'y a que 200 gens. Et dans la ronde des métiers, il faut avoir de l'autre genre.
Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sotte gens. Et dans la ronde des métiers, il faut avoir de l'autre genre.
C'est en fonçant qu'on devient fonctionnaire et en formant formulaire.
C'est en fonçant qu'on devient fonctionnaire et en formant formulaire.
C'est en secouant qu'on devient secouriste et en se trompant trompettiste.
C'est en secouant qu'on devient secouriste.
pêchant pêcheresse.
C'est en bouillant qu'on devient bouillabaisse et en pêchant pêcheresse.
Trichant qu'on devient Richelieu et en se barbant barbe bleue.
C'est en trichant qu'on devient Richelieu et en se barbant barbe bleue.
C'est en freinant qu'on devient frénétique et en errant érotique.
C'est en freinant qu'on devient frénétique et en errant érotique.
C'est en ramant qu'on devient ramoneuse et en riant rimailleuse.
C'est en ramant qu'on devient ramoneuse et en riant rimailleuse.
Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de son de gens. Et dans la ronde des métiers, il faut avoir de l'entre-genre.
Et grâce à mon travail acharné et à mon ambition démesurée, je suis devenu un auteur de livres à succès. J'aime beaucoup ce que j'écris. J'ai lu mon dernier livre. Chapeau. Qu'est-ce que j'écris bien? C'est remarquable. Quel style! Quelle plume! Quelle encre!
Voilà Daniel Prévost qui parle de son nouveau métier, oui. Celui d'écrivain, hein, c'était prémonitoire.
Prémonitoire, tout à fait, oui, oui, absolument.
Après la ronde des métiers que vous chantiez avec la troupe Charles de Foucault.
Ah oui, hein, Charles de Foucault, voilà.
À l'époque de l'émission Anagramme. Mais sérieusement, cet extrait d'un sketch sur les écrivains où vous vous moquez des écrivains ne vous a pas empêché de devenir écrivain ces dernières années, de plus en plus?
Oui. Mais je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est, vous savez, les choses m'arrivent spontanément.
Ouais.
J'y réfléchis pas beaucoup. Surtout, c'est toujours spontané.
Ouais.
Vous voyez, mon imagination part et elle s'arrête, elle s'agrippe là. Bon, bah, faut faire quelque chose parce que il faut bien se désagripper.
Mais à l'origine, sont les éditeurs qui vous ont poussé un petit peu à écrire. À rassembler des textes,
au départ,
des pensées, des livres drôles aussi, au Cherche-Midi, des choses très diverses.
Au départ, c'est quasiment ça. Mais en fait, sans parler du livre « Tu n'en sauras jamais combien je t'aime », au départ, j'avais envie d'écrire, vous savez. Et donc, cette envie est passée par des bluettes, des bêtises, des trucs, des rigolades.
Des lettres d'adieu.
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que j'écrive. Parce que dans ma vie d'écrivain, c'est toujours quelque chose qui m'est arrivé.
Voilà.
Et puis ensuite, ça déborde. Hein. Vous avez le matériau littéraire, ce qu'on appelle le matériau littéraire. Et ensuite, eh bien, il faut lâcher ce matériau littéraire et puis s'évader un petit peu. On va pas parler sans arrêt du matériau littéraire. Ouais. On parle d'une.
Enfin, ce sont des romans d'inspiration autobiographique
c'est
qui
ça,
se sont succédés.
Voilà. C'est exactement ça.
Mais c'est pas aussi une forme de pudeur vis-à-vis de vos proches, de votre famille,
si.
Qui fait que vous transposez toujours un peu, bien même sûr. Si on vous reconnaît toujours très bien.
Si, vous avez totalement raison. C'est tout à fait juste. Mais c'est comme ça que je fais. Je ne peux pas attendre que les gens meurent pour écrire.
C'est sûr, c'est compliqué.
Voilà, donc, je me dis, allez, allons-y, courage. Et alors, on déforme, on transforme. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Mais sur les livres que j'ai publiés au Cherche Midi, j'en ai publié des très, très rigolotes. Hein,
oui, c'est vrai.
Alors là, j'étais parti sur une espèce de liberté de... Ah, c'était pas, si vous voulez, c'était pas dangereux. Voilà, les premiers livres que j'ai publiés comme ça n'étaient pas dangereux au Cherche Midi. C'est ça qui est formidable. Mais avant, j'en ai publié qui étaient quand même assez... Bon, je vais pas dire dangereux, mais assez difficiles à composer réellement.
Ouais.
Comment je vais faire? Comment je vais traduire? Est-ce que je vais réellement mentir? Est-ce que je ne vais pas mentir à ce moment-là? Est-ce que je vais garder ce moment si délicat et si douloureux, je ne sais pas. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que c'est la redécouverte de votre père Kabyle qui a été un peu aussi le point de départ de toute cette envie de raconter votre vie?
Oui, bien sûr, ça a été ça.
Vous en avez fait un livre, mais ça a été un peu aussi l'origine de tout ce qui a suivi, peut-être.
Oui, et ça a été assez difficile, quoi. C'est, je dirais, suffisamment difficile pour que ça me rende malade.
En tout cas, voilà, vous êtes ici aujourd'hui, effectivement, pour ce roman, alors, je disais au début, très mélancolique, hein, qui s'intitule « Tu ne sauras jamais combien je t'aime », mais dans lequel il y a en même temps une espèce de légèreté d'écriture et de récit qui fait que on ne sombre pas dans la mélancolie, on la comprend, on la partage, et il y a beaucoup de musique, et vous évoquez votre femme ou la femme du narrateur qui est évidemment inspirée de votre femme disparue en 2007, qui était originaire de ce nord de l'Europe, d'où la présence aussi dans ce livre de la valse triste de Sibelius.
C'est très bien.
Thank you.
La valse triste de Sibelius par Eugène Ormandy, très belle version, Daniel Prévost,
oui.
De cette œuvre très présente dans votre nouveau roman, je précise, hein, « Tu ne sauras jamais combien je t'aime », le titre qui est d'ailleurs aussi un vers de Federico Garcia Lorca, personnage oui. très important dans le livre. Ce livre qui balance donc entre le Grand Nord, puisqu'il est écrit après la disparition de la femme du narrateur, qui vient de là-bas, d'où la présence de Sibelius, et puis l'Espagne, qui est le versant plus ensoleillé du livre.
Oui, c'est ça. Cette histoire d'Espagne, c'est ma rencontre avec deux petits-enfants espagnols, voilà. Paco et Rosita.
Voilà, qui sont reviennent tout le temps dans le livre.
Oui. Voilà, où j'étais en colonie de vacances dans les Pyrénées-Orientales.
Ça, c'est du vrai. C'est pas du roman, ça.
Non, c'est du vrai.
Oui, comme quoi tous en chevêtre.
C'est du vrai, oui, mais c'est marqué dans le roman. Donc, ils étaient espagnols. Ouais. On était devenus copains. Puis, vous savez, les chagrins d'enfants, les passions d'enfants, elles restent, elles existent. Hein. Ouais, il ne faut pas se tromper. Et mon Dieu, chacun est parti de son côté. Et il y a quelque chose, toujours, de déchirant là-dedans. Et en même temps, je me suis gardé d'en parler pendant des années et des années. Ouais. Et j'avais dit un jour, il faut absolument que je fasse un spectacle sur Federico Garcia Lorca. Et là, j'ai fait ce spectacle sur Federico à Avignon, très exactement, au Théâtre du Chien qui fume, il y a 8 ans à peu près, oui, 8-9 ans. Et je ne me suis pas rendu compte que ça avait un tel impact sur le public. Parce que là, j'ai eu un vrai triomphe. Et après, j'ai reçu des lettres. Ça, c'est très intéressant. J'ai reçu des lettres de vieux réfugiés espagnols ou des fils de républicains espagnols, ou fils de petits-fils qui me disaient « Monsieur Prévost, merci, continuez parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a connu un tel, vous voyez, pendant ces événements tragiques. » Et je ne me suis pas rendu compte de ça. Et je suis assez naïf quand même, finalement.
Bon, et puis l'autre sujet du livre, c'est au fond... Est-ce qu'on peut se remettre de la disparition de l'être qu'on a aimé, avec qui on a vécu pendant très longtemps? Et oui. C'est une espèce de combat contre soi-même, contre ses proches, contre la mort, d'arriver à renouer avec la vie et avec l'amour. C'est
oui,
le sujet de ce livre.
Oui, vous avez raison, bien sûr. Mais là, ce qui est difficile, c'est de faire accepter à l'autre, aux autres.
Oui.
Mais bon, on se débrouille, on fait ce qu'on peut.
Le personnage, au départ, il est brisé, il pleure tout le temps, il n'en sort pas de ce deuil.
Mais c'est la vérité, vous verrez.
Mais finalement, il y a Muriel qui vient apporter
arrive,
de la lumière.
Cette personne, oui, arrive la rencontre que jamais tu ne peux imaginer. On ne peut, je dis à elle, comme ça. Donc, on ne peut imaginer. C'est comme ça, ça arrive de cette manière. On est complètement perdu, on est dans un chaos absolu, on est face aux falaises d'Étretat et on se dit, tiens, est-ce que je vais plonger là-dedans? Et puis, il y a une main tendue. Et cette main tendue, elle est là, voilà, et elle s'appelle Muriel.
Voilà.
Voilà, c'est comme ça.
C'est le sujet de ce très beau livre qui vient de sortir, Daniel Prévost, Tu ne sauras jamais combien je t'aime. On va encore en dire quelques mots, et je redis que la musique est présente avec des indications littéraires aussi. Vous aimez bien rajouter des petites notes de temps en temps pour donner envie d'aller découvrir autre chose.
Oui, je crois qu'il faut, de toute façon, comme ça on montre bien qu'on ne dit pas que des bêtises.
Voilà. Alors vous auriez pu, même peut-être pas dans ce livre-là, mais faire référence à Eric Satie qui vous est très cher.
Ah oui.
Et qu'on va retrouver avec votre voix et le piano de Stéphane Blay.
Me voici dans ma 56e année. Je suis donc quinquagénaire. Les critiques me représentent comme étant drôle, c'est pas vrai. Je ne suis pas drôle, ni ne désire l'être. Je suis un triste, un mélancolique, un pleureur, comme le saule. Ce qui est bien assez bon pour moi.
Vous l'aimez bien, Monsieur Satie, Daniel Prévost.
J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qu'il a écrit, etc., les gymnopédies. Ouais, et... Mais tout ça, c'est, je trouve ça admirable. Et j'essaie désespérément de comprendre, d'aller plus loin. Parce qu'on écoute, on écoute, on écoute une musique, mais encore faut-il se l'approprier. Ouais. Il faut réfléchir dessus. C'est pas une chanson anodine, qu'on écoute.
En tout cas, voilà, on retrouve, il y a deux disques, hein, et avec plein de petits morceaux de Satie et de textes dits de Satie, donc dits par Daniel Prévost. Bon, on aurait pu évoquer beaucoup d'autres de vos groupes musicaux, hein, ceux du livre d'abord, ceux qui illustrent le livre, comme la Moldao également.
Ah oui,
hein.
Ah oui, ça c'est très très beau. Ouais.
C'est très
le
beau.
Smetana, c'est Smetana. Vachement beau.
On aurait pu parler d'Aznavour, L'amour et la guerre.
Ah, ça c'est quelques beaux. Vous ne l'avez pas, ça?
Ah, on l'a, mais on va peut-être finir avec Pas sur la bouche.
Vous ne voulez pas finir sur Aznavour?
J'adore Aznavour.
Prenez-le.
Bon, alors, Pas sur la bouche, on le passera une autre fois, mais quand même, revenons à cet enregistrement avec Alain René, donc de cette opérette de Maurice Yvain. C'est un bon souvenir pour vous?
Ah oui, très bon, très très bon.
Avec que des comédiens qui chantaient, donc...
Ils chantaient bien, voilà. D'ailleurs, pour moi, ça allait, c'était bien.
Vous étiez un de ceux qui chantaient le mieux?
Un de ceux qui chantaient le mieux, oui, c'est possible, mais pas assez, d'ailleurs. non, c'est vrai, oui, je me souviens... Mais c'est ça.
Le travail avec Alain René autour d'une opérette, comme ça, c'était inattendu quand même.
Oui, mais c'était très sympathique parce que pour moi, c'était un monsieur extrêmement gentil, agréable, ouais. Sympathique, calme. Et c'est très étonnant de rencontrer des gens comme ça. Alors on croit parce qu'il avait une stature, vous voyez, Alain René, c'était pas n'importe quoi, c'était pas n'importe qui, je veux dire. Uh-huh. Il avait cette stature comme ça, et vous lui parliez, il vous répondait, et il était pour moi délicieux. Voilà, c'était ouais. C'est très bizarre comment on se fait des images, parce que j'étais allé le voir, et il m'a dit voilà, est-ce que vous voulez faire ça? J'espère que. Et là, d'un seul coup, on se dit ah. Il est épatant. C'est épatant, oui. Tu voyais un homme comme ça, calme, pondéré, ouais. Et puis intelligent, évidemment.
Parler de façon très posée.
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et puis avec le travail qu'il avait, et cette façon qu'il avait de diriger le plateau, mais doucement, sans heurts, sans quoi que ce soit. Je crois que les gens l'adoraient.
On ne vous a jamais proposé, d'ailleurs, par ailleurs, de chanter et jouer dans des opérettes, justement, des Offenbach ou des choses comme ça. On vous imaginerait bien aussi dans un des rois de la Belle Hélène. Vous l'auriez pas fait ?
Non, parce que
vous avez chanté et joué la comédie, c'est pas si fréquent.
Non, c'est vrai. Non, mais j'avais déjà eu une proposition ou deux, je crois, une seule. Mais j'ai dit non, je veux pas. Parce que j'ai aucun rythme.
Ah bon,
j'ai pas de rythme.
Vous n'avez pas le sens du rythme.
Je ne sais pas le sens du rythme. Alors quand j'ai fait mon spectacle à Avignon, j'avais les deux guitaristes. Il fallait vraiment qu'ils me tiennent parce que je n'ai pas le rythme. Je sais chanter, je chantais bien. J'avais la mélodie, j'avais cette espèce de volonté, mais ils étaient obligés de me rattraper à chaque fois.
Aujourd'hui, c'est l'écrire que vous préférez ou...
Oui, j'aime bien écrire, oui. C'est-à-dire que si on me propose un film qui me paraisse intéressant et en même temps...
Le dernier, c'était Mission Pays Basque,
un joli petit film, c'était mignon, mais qui, moi, je considère qu'il y avait des qualités très sympathiques, et puis je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais c'est dommage, parce que j'ai beaucoup apprécié l'ambiance du film.
Et puis le dernier, peut-être grand rôle, plus marquant, c'était Les Petits Ruisseaux, non de
Ah, Les Petits Ruisseaux, c'est autre chose. C'est quelque chose qui me tient à cœur profondément. Hein. Ça correspondait à la fois pas très loin de l'événement dramatique qui s'était produit dans ma vie. Mais c'était quelque chose de très joli à la fois, vous voyez. Et Pascal Rabaté avait fait un très beau travail de réalisateur. C'était très très bien, avec Hélène Vincent notamment, et puis
et d'autres encore. Ouais. En tout cas, voilà. Merci Daniel Prévost d'être venu pour ce livre qui aujourd'hui donc vous occupe. En attendant peut-être le prochain, vous l'avez déjà en tête, non ?
Oui, bien sûr.
C'est vrai ? Oui. C'est vraiment devenu Daniel Prévost.
Oui, c'est pas devenu, c'est comme ça. Hein. Ça se passe comme ça. On se dit, il faut faire quelque chose, faisons quelque chose. Essayons de créer, il faut toujours créer quelque chose, c'est ça qui est important. Je pense que c'est ce qui manque actuellement, c'est un petit peu, enfin moi je dis ça, je veux même pas critiquer quoi que ce soit, qui que ce soit, mais je trouve que ça manque un petit peu de créativité, et je crois qu'il faut, dans ce monde, il faut créer, toujours, sans arrêt.
Et pour répondre à votre demande, on va se quitter avec Charles Aznavour alors.
Oui.
L'amour et la guerre,
oui.
Ça représente précisément quelque chose pour vous,
cette
chanson ?
Ça représente quelque chose de très fort. C'est une chanson dont les paroles sont de Bernard Dimet, qui était un monsieur qui a écrit de très très beaux textes. Et Charles Aznavour, je pense qu'il en a fait la musique. Et c'était Paul Mauria qui était
l'arrangeur-orchestrateur.
Ouais. Et la chanson, c'était à peu près ça. Il faut le retrouver. Hein.
Ah ben on va l'écouter tout de suite.
On peut l'écouter.
Ah,
c'est géant.
Vous êtes là pour ça.
Oh, merci infiniment.
Merci à vous d'avoir été là ce matin, Daniel Prévost.
Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci infiniment.
À bientôt.
À une autre fois, merci infiniment. Merci à tous.
Pourquoi donc irais-je encore à la guerre? Après ce que j'ai vu avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère? Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elles berçaient pour moi des rêveries anciennes, illusion d'un enfant dont il n'est rien resté. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères. Bleuets, coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes, ni le feu, ni le fer, n'y pourront jamais rien. Car l'amour et lui seul survit parmi les flammes. Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien. Pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse, alors que le bonheur est peut-être à deux pas? Je suis là pour t'aimer, je veux t'aimer sans cesse, afin que le soleil se lève sur nos pas.
Une très belle chanson, effectivement, de Charles Aznavour, « L'amour et la guerre ». C'était un choix de mon invité aujourd'hui, Daniel Prévost, qui vient de publier aux éditions du Cherche Midi, et nous en avons longuement parlé. Donc ce roman intitulé « Tu ne sauras jamais combien je t'aime ».
L'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre. Il y a quelque chose de changé.
Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trépoussent. Et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font les pantins. On voit les chasses pour les chais, pour les chattes. Et les escargots galopés racontent train.
Ah, quelle douceur! La vie vous semble rose, y'a pas d'erreur. Il se passe quelque chose. Tiens, 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 on joue de la mandoline. Tiens, 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 l'air s'emplit de refrain. Y'a des chansons sur les lèvres des copines et des petits boutons sur le nez des copains. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient.
Tiens, 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 les rues semblent en fête.
Tiens, 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 que la
les gamins.
Les charcutiers ont des airs de poète et tous les coiffeurs ont du poil dans la main.
Tiens, tiens, tiens,
soupirent les douanières.
Tiens, tiens, tiens,
s'écrient les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière.
Les roucains roucoulent et les bègues ont le béguin.
Les vieux gandins ont toutes les audaces, mais il faut bien que vieillesse se passe.
Tiens, tiens, tiens,
la gaieté me transporte.
Tiens, tiens, tiens,
je me sens aérien. Mais v'là soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien.
Tiens, 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 c'est le printemps qui vient.
Une chanson de saison, s'il en est. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Un des plus jolis enregistrements de l'orchestre de Réventura en 1939.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Et pour rester dans le ton enjoué des revues de musicals, tiens, je voudrais vous signaler, si vous êtes le week-end prochain dans la région du Havre, une revue, une vraie revue à grand spectacle. Ah, vrai, ça c'est le Havre, une revue montée par Patrick Tesser. Je l'avais reçu ici, il avait évoqué l'époque où il y avait justement au Havre, comme dans beaucoup de villes de France, des revues chaque année. Et celle-ci était montée par Bergeau, qui était un passionné d'opérette et de spectacle. Alors voilà, Patrick Tesser fait revivre au petit théâtre du Havre, ah, vrai. Ça, c'est le Havre, une revue le 26 et le 27 mai, avec des danseurs formidables, avec un orchestre, etc. Une évocation évidemment de l'actualité, de la ville du Havre aussi, mais transposée dans l'esprit du musical, un spectacle à ne pas manquer. Quant à nous, eh bien, il est bientôt 12h14 sur France Musique et nous avons rendez-vous avec Serge et Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Serge que je reçois toujours avec joie, mais aujourd'hui avec un tout petit peu de tristesse au coin de l'œil, parce que voilà, nous avions prévu un autre programme, et puis Gérard Joannest, je le disais au début de l'émission, nous a quittés cette semaine, et Serge a pensé avec à juste titre, et nous avons pensé qu'il était bien de lui rendre aujourd'hui un hommage à votre façon, Serge et Laïc, en explorant les divers aspects du métier musical merveilleux qui était celui donc de Gérard Joannest.
Eh bien oui, donc Gérard vient de nous quitter à l'âge de 85 ans. Il a fait partie, comme pianiste et comme compositeur, de nombreux titres de l'univers de Jacques Brel, tout comme l'arrangeur et chef d'orchestre Franz Robert. C'était donc un vrai triumvirat. Le grand-père de Gérard Joannest était facteur de piano. Le jeune enfant, Gérard, passionné de musique, est admis au Conservatoire de Paris avec, à la clé, un premier prix de piano en 1954. Au retour du service militaire, eh bien, Gérard prépare le concours de professeur au Conservatoire de Besançon, mais... Deux jours avant le concours, la mort brutale de son père, c'était au printemps 1957, eh bien, le projet est anéanti. Après ce tragique événement, car Gérard avait mal supporté la perte de son père brutal, eh bien, pour subvenir à ses besoins, il s'oriente vers la variété et il sera alors accompagnateur du groupe vocal Les Trois Ménestrels. Mais là, nous écoutons une des superbes compositions de Gérard Joannest pour Brel, Mathilde.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria. Faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat, maudite Mathilde, puisque je suis là. Mon cœur, ne t'emballe pas, c'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, dites-moi. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mathilde, mais revenue. Ounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, mais revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde, mais revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. M'appelle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
Mathilde, un petit chef-d'œuvre de la chanson française de 1964. Alors là, Serge, c'était merveilleux parce qu'on avait tout. On avait, c'est une composition de Gérard Jeunesse, mais on entendait aussi Gérard Jeunesse au
virtuose,
piano, jouant sublimement dans les arrangements extraordinaires de François Robert. Tout ça, ça fait une chanson avec évidemment la voix de Jacques Brel en plus.
Évidemment.
Merci
alors,
pour ce beau, cette belle idée de réentendre cette chanson aujourd'hui.
Alors, à l'époque, en 1958, eh bien, le jeune François Robert, chef d'orchestre et arrangeur des disques de Jacques Brel, est aussi son pianiste hors de ses gala. Mais le succès grandissant de Brel incite François Robert, qui était alors très occupé par ses études au conservatoire, à proposer à Gérard Jeunesse, il l'avait connu aux Trois Baudets, au cabaret des Trois Baudets, eh bien, de le remplacer pour les apparitions de Brel en public. Gérard Jeunesse se souvient de ses débuts avec Brel.
J'ai commencé à l'accompagner au mois de décembre, je crois, 58. C'était à la Villa d'Est, où je l'accompagnais officiellement. On a commencé à quatre mains avec François Robert. Et comme c'est François qui l'accompagnait avant, on s'est mis à quatre mains pour qu'il ne sente pas trop la différence d'accompagnement. Et je rêvais de l'accompagner après. Puis ça s'est produit qu'avec les circonstances, François a dû arrêter et puis il m'a demandé de l'accompagner. Il était tellement agréable en compagnie que c'était bien, quoi. On passait des nuits jusqu'à 3-4 heures, 5 heures, après tous les spectacles. Mais c'était vraiment un plaisir d'être avec lui dans la vie et sur scène.
Et à la fin, je crois qu'il y avait 300 concerts par an dans les dernières années.
Ah oui, oui. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute et on faisait des kilomètres dans tous les sens. On a dormi beaucoup, beaucoup dans la voiture.
Le soleil qui se lève et caresse les toits et séparit le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et séparit toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et séparit bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et séparit l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, et c'est Paris nous deux. Un regard qui reçoit la tendresse du monde, et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, et c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis, et c'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les roues tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens. Les
prénoms de Paris, encore une composition de Gérard Joannest, chantée par Jacques Brel, arrangée par François Robert, enregistrement de 1961. On se disait hors antenne, Serge Laïc, qu'il y a eu en fait pour certaines chansons une deuxième série d'enregistrements, toujours supervisée par François Robert au début des années 70.
Par exemple, le morceau On n'oublie rien,
qu'on a entendu au début d'émission,
était en fait, si j'ai bien compris, de 72 la
version. C'était la version de 72, mais il y a une autre version
en
d'origine
1960.
De 60. Voilà,
absolument.
Voilà.
Alors, Gérard Joannest donc composa seul ou en co-signature avec Brel la musique de 35 chansons du répertoire de Brel, On n'oublie rien, donc la toute première. Bruxelles, Mathilde, la chanson des vieux amants, tant d'autres. Toutes chansons donc arrangées, enregistrées sous la houlette de François Robert. Je vous propose une petite rareté discographique, cher Benoît, je vais vous étonner. La musique de la chanson Les taureaux, composée par Brel, Joannest et Jean Corti, musique interprétée par François Robert et son grand orchestre.
Ah oui.
Voici le disque, cher Benoît.
Donc, version instrumentale.
Absolument. Voilà. Auparavant, François Robert évoque la manière dont Jacques Brel et Gérard Joannest créaient la plupart des chansons.
Il trouvait ses chansons, pour la plupart du temps, c'était en tournée. Il arrivait toujours à l'avance pour un gala, pour un spectacle. Et comme Gérard Joannest, qui était devenu donc son pianiste et accompagnateur, roulait avec lui, ils arrivaient en même temps au théâtre. Et souvent, il se servait de ce moment, de ce temps dont il disposait. Fais-moi voir ça, fais-moi tel rythme, fais-moi telle ou telle chose. Et Gérard y allait, et là-dessus, se fabriquait la chanson petit à petit.
Taureau, une composition de Gérard Joannest, enregistrée donc par l'orchestre de François Robert, un disque Barclay, dont vous nous avez apporté évidemment l'original, comme toujours, Serge Laïc.
Alors, c'est très étonné que Gérard Joannest apprend la décision de Jacques Brel de quitter le Tour de Chant en 1967, mais à l'époque, Juliette Gréco, en rupture de pianiste, l'engage. Et c'est plus d'un demi-siècle qu'ils auront passé ensemble, tant sur scène qu'en privé, puisque Joan Est était devenu l'époux de Juliette Gréco. Quelques années avant la disparition de François Robert, j'avais pu interviewer ce dernier en pleine discussion avec Juliette Gréco. Juliette se souvenait de sa rencontre avec Brel et Joan Est au début des années 60.
Oh, je suis tout heureux de vous entendre.
Et moi donc.
Et puis de vous avoir réunis avec Jacques. Vous avez tout de même fait une belle équipe, sans oublier notre père Joan Est.
Ah ben, le beau Joan Est, il est venu plus tard. Il est arrivé un matin avec Brel, et ils sont arrivés relativement tôt, il devait être 11h du matin, et j'avais fort peu dormi, et j'ai vu arriver ces deux fous de musique et ces deux fous d'amour, que ce soit Joan Est, que ce soit Brel, que ce soit vous, ce sont des gens si forts, si rayonnants, si généreux, comme ça que on reste un petit peu la bouche ouverte, quoi.
Vous êtes trop gentille, mais vous savez que c'est pour nous le plaisir de travailler avec vous. Donc je parlais des grands qui avaient le courage et le métier d'enregistrer en direct avec l'orchestre. Et ça, ce sont des plaisirs qui nous arrivent rarement, vous savez.
Non,
et avec vous, ça a toujours été des fêtes superbes.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qui apporterait du ciel bien plus qu'un message. Et pour échanger d'un coup au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
Merveilleuse Juliette Gréco dans Un petit poisson, un petit oiseau avec l'orchestre de François Robert et bien sûr au piano, Gérard Joan Est qui nous a quittés. Merci de nous en avoir si bien parlé, Serge Laïc.
Il travaillera aussi avec la jeune génération. Dans les années 2000, il composa pour Miossec et le slameur Abdelmalik. Voilà, merci Benoît.
Merci à vous et merci à Gérard Joan Est. Et je rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver l'émission que j'avais enregistrée avec Gérard Joan Est sur le site de France Musique à la page Étonnez-moi Benoît. Dans l'émission d'aujourd'hui, Daniel Prévost, il y a un lien qui vous permet de réentendre cet entretien. Étonnez-moi Benoît a été réalisé aujourd'hui par Perrine Mingui avec la technique Adelino Mello, Jean-Paul Lafavergès. On se retrouve samedi prochain, j'aurai la grande joie de recevoir Françoise Fabian. Bon week-end à tous. Sur France Musique, vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.